Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée par Samuel Bernard, Marguerite Caton, Léa Sabourin et Corentin Mansois, réalisée ce matin par Vincent Abouchard et à la technique Jean-Guilain Meige. Cette semaine dans Culture Monde, une série consacrée aux armées, leurs évolutions, leurs rôles, leurs pouvoirs. Les militaires en première ligne, c'est notre thématique, comme toujours en quatre volets. Mardi, demain, ils se direction l'Amérique latine, où nous essaierons de comprendre la nature du lien entre militaires et dirigeants politiques. Mercredi, il sera question de l'armée comme instrument de la puissance, en Chine notamment. Et enfin, jeudi, nous parlerons du développement des milices au Mali ou encore en Libye et de leurs relations complexes avec les armées officielles. Mais aujourd'hui, nous parlons stratégie et prise de risque. Les armées occidentales ont-elles peur de faire la guerre? C'est notre sujet ce matin.
C'est un des deux replis de Daesh dans cette région, sachant que l'autre a été tapé fin septembre.
Si on n'a pas captured, là, vous apportez la passe, nous, on tirera notre GBU-49. En gros, 15 secondes après. Et à ce moment-là, il devrait y avoir pas mal d'explosions sur tous les autres MTI.
La mission principale, c'est une mission d'appui des troupes au sol. Donc on part depuis la base aérienne projetée en Jordanie et puis on va effectuer des missions en Irak ou en Syrie pour aider les troupes au sol.
Il faut y être préparé et être suffisamment serein dans sa tête pour réaliser la mission, même s'il y a une pression psychologique qu'on ressent finalement beaucoup plus au sol qu'en l'air, puisqu'une fois qu'on est dans l'avion, au final, on se retrouve dans notre environnement de travail classique et on fait un petit peu abstraction de cette phase-là.
Après l'évacuation de centaines de combattants de l'État islamique et de leurs familles ces derniers jours, il ne serait désormais plus que quelques centaines dans le village de Baghouz à l'est du pays, sur les rives de l'Euphrate, en Syrie. Les derniers fidèles du califat s'apprêtent à mener leur ultime bataille. La victoire pour la coalition internationale et ses alliés sur place est imminente. Mais quelle victoire exactement? Dans une tribune publiée fin février, un militaire français, le colonel Légrier, commandant de la Task Force Wagram au Levant, relativisait déjà ce succès tant annoncé. Il revenait sur la bataille d'Agin, un autre bastion de Daesh, et faisait ce constat amer. Il aura fallu 5 mois aux armées les plus puissantes et les plus modernes du monde pour venir à bout de 2000 combattants ne disposant, je cite, ni d'appui aérien, ni de guerre électronique, ni de forces spéciales, ni de satellites. Une victoire donc au goût d'échec. En cause, selon lui, la frilosité des armées occidentales a envoyé leurs soldats sur le terrain, préférant s'appuyer sur l'aviation et sur leurs alliés locaux. Le colonel dénonce une erreur stratégique, une critique comme on en lit rarement et qui devrait lui valoir une sanction, mais en attendant, le débat est ouvert. Alors la guerre contre l'État islamique a-t-elle été trop longue et trop coûteuse? Les armées occidentales ont-elles fait preuve d'un excès de prudence ou bien était-ce légitime de réduire au maximum les pertes de nos soldats? Enfin, qui paye le coût de cette stratégie de la mise à distance du conflit? Eh bien, ils sont deux invités ce matin pour répondre à ces vastes questions. Michel Goya, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ancien colonel, spécialiste de l'histoire militaire et de l'analyse des conflits. Vous êtes l'auteur notamment de « Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail ». C'était paru aux éditions Talendier en 2014. Et on peut vous lire très régulièrement sur votre blog « La voix de l'épée » dont on mettra un lien sur notre site. À vos côtés, Bénédicte Chéron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, chercheur partenaire à la Sorbonne, enseignante à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes l'auteur, vous, de « Le soldat méconnu, les Français et leur armée ». Armée, état des lieux, c'était paru l'année dernière aux éditions Armand Collin. Merci également d'être avec nous ce matin. Michel Goya, je commence avec vous. Vous avez soutenu la prise de parole du colonel Légrier dont on vient d'évoquer la tribune. Vous avez qualifié ses propos loin des éléments de langage habituel. Pourquoi cette parole particulièrement critique vous paraît-elle importante aujourd'hui dans le débat? Et est-ce qu'en général on manque de point de vue militaire sur la question des opérations extérieures?
Oui, effectivement, on manque de points de vue militaires sur les opérations. Quand vous avez un problème de pandémie, ben vous entendez des médecins parler, vous voyez dans les revues médicales des gens qui s'expriment, des professionnels qui s'expriment sur leur propre métier. Donc les militaires doivent même réfléchir sur la manière dont ils sont utilisés. Ce sont des instruments politiques, non pas à juger du pourquoi des choses, du pourquoi on est en Irak et en Syrie, par exemple, mais en revanche, sur leur propre métier, sur la manière dont on emploie les forces pour vaincre l'ennemi, oui, bien sûr, ils sont pleinement dans leur droit.
Mais est-ce que le fait de ce débat précisément sur le fait d'engager des troupes au sol ou non, est-ce que là, ça relève du militaire ou est-ce que ça relève du politique ? Et est-ce que le colonel Légrier est vraiment dans son rôle quand il prend position pour dire on aurait dû envoyer davantage de soldats au sol ? Est-ce que ça relève pas du politique plutôt, ce type de décision ?
Dans la même revue, revue de Défense Nationale, dans le numéro précédent, il y avait un général Chollier qui lui aussi s'exprimait sur cette opération, qui trouvait formidable la manière dont les moyens étaient utilisé, c'était un autre point de vue, donc là il y a simplement un débat. Je précise que moi j'ai écrit sensiblement la même chose que le Grillé dans une revue qui s'appelle Inflexion, qui est une revue des armées aussi, et donc c'était possible. À l'époque je n'ai pas été censuré comme c'est le cas aujourd'hui, donc il y a vraiment deux problèmes. Il y a le fond qu'on peut débattre, sur lequel on peut discuter. Donc là, on est dans le métier, je dirais. Et puis, il y a la censure politique, qui là, est inadmissible.
Alors, pour préciser, vous évoquez de la censure politique. Il faut dire que cet article, qui était donc paru dans la revue de Défense Nationale, a été retiré des réactions très critiques.
Oui, il a été retiré. C'est-à-dire que c'est là le vrai problème. On peut discuter sur la manière dont cet article a été écrit, on peut est-ce que c'était le bon moment, est-ce qu'il était au bon endroit, parce qu'il a écrit au moment où il était en opération, tout à fait, mais maintenant, à partir du moment où un article est publié, quelque part d'ailleurs, je pense que c'est même un principe qui doit être général, à partir du moment où il est publié, un article devient intouchable. J'ajoute que par ailleurs, c'est du point de vue des censeurs, c'est particulièrement stupide, puisqu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur moyen de rendre visible quelque chose. Enfin, le meilleur moyen de rendre visible quelque chose, c'est d'essayer de l'étouffer.
Bénédicte Chéron, comment est-ce que vous expliquez que la parole des militaires, c'est pas le premier cas, souvent en France, n'est pas la bienvenue dans le débat public?
Alors, il y a des données multiples. Il y a d'abord une donnée historique qui est assez évidente et qui est un peu particulière à la France. Alors, c'est vrai dans d'autres pays occidentaux, mais on a quand même une histoire de la relation politico-militaire en France qui est un peu houleuse, qui est un peu difficile. En fait, qui ne l'est pas tant que ça dans la pratique, mais il y a des moments qui agissent comme des espèces de traumatismes, comme des marqueurs mémoriels qui font que tout le monde garde en tête et du côté politique et du côté militaire que le risque, que l'échange est risqué entre le politique et le militaire. Évidemment, parmi ces moments les plus mémorables, il y a la question de la guerre d'Algérie et du putsch des généraux en avril 61, qui continue de marquer. Ça commence à s'estomper dans les esprits du personnel politique, en tout cas pour les plus jeunes, mais dans un public savant, et c'est le cas souvent aussi du personnel politique, parce qu'ils ont fait un peu d'histoire, ils continuent de garder en tête que dans les états-majors ou parmi les officiers supérieurs, il y aurait toujours cette tentation déborder, de sortir du cœur de métier qui est juste la mise en œuvre technique de décisions politiques.
Pardon, ça veut dire que la classe politique, selon vous, se méfie de la parole des responsables militaires ?
Je pense que c'est une des raisons qui n'est pas toujours assumée, qui n'est pas toujours consciente d'ailleurs, mais qui reste en arrière-fond mémoriel. Après, il y a d'autres raisons qui tiennent à ce que sont aujourd'hui les impératifs de communication en matière de défense et en matière d'opération, qui se sont évidemment complexifiés avec l'évolution du paysage médiatique et l'évolution de la nature de la guerre, enfin des opérations elles-mêmes, et qui font par exemple que pour le cas de cet article du colonel Le Grillet, le fait qu'il s'exprime alors qu'il est encore en commandement dans la zone irako-syrienne n'inquiète pas seulement le politique, elle vient heurter de plein fouet des procédures de communication opérationnelle qui sont très inscrites dans le champ militaire. Alors le malheur, hein, c'est que probablement le délai de parution de cette tribune en fait n'a pas du tout été maîtrisé et donc est venu un peu torpiller le débat qui mérite d'être tenu. En fait, on pourrait presque regretter qu'elle soit parue aussitôt parce que si elle était parue 2 mois plus tard, on n'aurait pas pu reprocher le moment de la parution et ça aurait été un bon test pour savoir si le politique était prêt au débat, sans s'abriter simplement sur le fait qu'un colonel, encore en commandement dans une zone d'opération, prenez la parole sur les modalités même de cette opération.
Alors venons-en au contenu de ce que soulève le colonel Légrier dans sa tribune. Il revient donc sur la bataille d'Agin, qui est une localité en Syrie, un des derniers bastions de l'État islamique. Un bastion qui a donc demandé plus de 5 mois d'efforts militaires à la coalition pour être neutralisé. Est-ce que cette bataille, Michel Goya, ne serait pas un peu révélatrice d'une nouvelle manière d'aborder la guerre, c'est-à-dire où l'objectif, eh bien, c'est qu'il y ait de moins de pertes humaines possibles. Et quand je dis pertes humaines, c'est bien sûr les soldats de la coalition internationale.
Oui, alors ça date de bien avant la bataille d'Agin, hein. Même cette guerre elle-même. Hein. Je rappelle que la coalition est entrée en guerre il y a plus de 4 ans, c'est-à-dire qu'on a une coalition qui doit représenter 80% du budget militaire mondial, qui est la plus grande coalition militaire de l'histoire, qui est face à l'État islamique, qui n'est pas non plus une superpuissance militaire, et on est déjà sur un conflit qui a duré plus longtemps que la Première Guerre mondiale, avec une disproportion des forces qui est absolument colossale. Mais en réalité, c'est quelque chose qui date de bien avant. Hein. Pour la France, ça a commencé fin des années 70, début des années 80, en réalité, où on a cette volonté de ne plus s'engager, moins s'engager directement, de faire courir beaucoup moins de risques à nos soldats. Et donc de pratiquer une autre forme, qui est une forme plus indirecte. C'est-à-dire qu'il faut toujours, des soldats au sol, hein, pour aller planter des drapeaux, pour aller s'emparer des villes. Vaincre l'ennemi, ça se fait, fondamentalement, ça se fait toujours avec des unités de combat au sol. Et là, la différence, c'est qu'au lieu d'envoyer aussi des troupes françaises, par exemple, directement, comme on le faisait dans les années 70, hein, on a une centaine de soldats qui sont morts au combat de cette façon, on a décidé simplement de faire la même chose, mais sans les troupes françaises. Donc on fournit des appuis, c'est-à-dire des frappes aériennes, de l'artillerie, comme la batterie que commandait le colonel Légrier, du soutien logistique, de la formation, etc. En fait, tout le reste, sauf aller directement au combat. Voilà. En France, encore une fois, ça date des années 80. Le problème, alors on l'a fait soit techniquement de cette façon, soit aussi d'une autre façon, en disant on est là, mais on n'a pas d'ennemis. En essayant de nier la menace, ce qui est évidemment absurde, hein, ça a coûté à Beyrouth notamment, c'est ce qu'on a fait, on a dit la France n'a pas d'ennemis à Beyrouth, bon, mais le problème c'est que ça n'empêche pas d'en avoir quand même, et donc ça a coûté un certain nombre de vies françaises et autres un peu partout dans le monde, et puis donc techniquement en se mettant un peu en distance. Moi j'ai fait des opérations de ce type, j'ai fait une opération au Rwanda notamment où on était en appui de l'armée rwandaise à distance avec des batteries d'artillerie, etc. Puis on n'était pas en première ligne, si vous voulez.
Vous dites un tournant dans les années 80. Oui. Comment on explique ce tournant? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on décide de privilégier la sauvegarde des vies des soldats, de mettre à distance, de miser davantage sur les frappes aériennes, de miser davantage sur les alliés locaux qui, eux, vont aller au combat au sol? Est-ce que, vous avez évoqué Beyrouth, 58 militaires ont trouvé la mort en 83.
89 en total.
89, pardon.
Il n'y a pas que le Drakkar, hein, il y a eu bien d'autres après. Et avant.
Est-ce que cet événement-là, parmi d'autres, peut être un facteur explicatif, peut-être même un traumatisme qui expliquerait qu'il y a un changement stratégique dans la manière d'aborder les opérations?
Ah non, c'est les 89 morts de Beyrouth et les plusieurs dizaines de morts que j'ai vécues aussi à Sarajevo, par exemple, ou à Bosnie, sont des conséquences de cette mise à distance, de ce refus d'aller véritablement au contact, de faire la guerre véritablement. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les choses peuvent être moins meurtrières lorsqu'on va directement au combat. J'y reviendrai, si vous voulez. Mais là, non, il y a cette idée que, d'abord politiquement, on veut pas apparaître en première ligne, notamment en Afrique. On veut moins apparaître comme les gendarmes, donc on se met un petit peu en retrait. Et puis ensuite, parce que un conflit, ça s'adresse toujours à plusieurs publics. Hein. Une action militaire s'adresse toujours à plusieurs publics. L'ennemi, les alliés éventuellement, mais aussi l'opinion publique en France. Quoi. Et on considère que faire tomber si des soldats tombent, sont tués, bien le soutien à l'opération en cours risque de mal passer et d'être très très affaibli au sein de l'opinion publique. Ceci dit, il y a des contre-exemples. Hein. Pendant la la guerre du Golfe, par exemple, première en 1990, où on s'engage fortement et on s'apprête à faire une guerre extrêmement violente, ce qui sera le cas, et on annonce clairement qu'il y aura des dizaines, voire peut-être des centaines de morts français. Mais c'est accepté, c'est un autre discours, donc c'est possible. Mais à cette époque, dans nos petites guerres, d'une certaine façon, qui sont nombreuses, hein, la France a fait 19 guerres pratiquement depuis 1961, on se met pendant très longtemps à distance, disons de début des années 80 jusqu'à 2008 et l'engagement en Afghanistan, en Capissa et sur Obi. Donc il y a toute une grande période et là on revient un petit peu en Irak et en Syrie sur cette façon de faire, en grande partie parce que ce sont les Américains qui décident de le faire. Juste un dernier élément, si vous voulez, c'est que on fait ça aussi parce que on a une facilité qui est, justement, on dispose d'une supériorité aérienne totale. Concrètement, nos avions ne risquent pas grand-chose dans le ciel. Nos artilleurs non plus. Enfin, on a une sécurité telle qui nous permet de dire, privilégions cet instrument qui va nous permettre de réduire les risques de nos soldats. Mais ce n'est pas sans conséquence, et ce n'est pas notamment sans conséquence très négative.
Bénédicte Chéron, comment est-ce que vous observez ce qu'on pourrait appeler comme le poids de l'opinion publique dans la manière de faire la guerre? Est-ce que l'opinion publique ces dernières années est devenue de plus en plus réfractaire à l'idée que des soldats puissent mourir sur des terrains d'opération extérieure? Ou bien est-ce que c'est le politique qui anticipe que l'opinion publique pourrait mal réagir et donc décide mettre la sécurité des soldats en priorité?
En fait, le politique anticipe ce risque pour l'opinion publique, mais l'anticipe souvent avec des lectures très simplistes du rapport de l'opinion publique, des opinions publiques, parce qu'on sait que c'est une matière un peu difficile à saisir avec les opérations. Évidemment, on constate qu'il y a une grande loi depuis que les opérations sont beaucoup plus médiatisées en France, donc à partir des années 80, mais vraiment 90, qui est que plus il y a des soldats français qui meurent en opération, moins l'opinion publique soutient l'opération. Voilà, ce qui est une espèce de mécanisme un peu inévitable, qui est d'ailleurs paradoxal, parce que ça veut dire qu'on enclenche un cycle de médiatisation qui voudrait dire qu'ils sont morts pour rien, voilà. Mais il y a ce cycle-là, et en fait, le politique n'a que cette lecture-là en tête, qui est de dire, s'il y a des morts, les Français ne vont plus nous soutenir. Et c'est une grille qui, là encore, est très marquée historiquement, hein, parce qu'on a en tête la guerre d'Algérie, on a en tête aussi la guerre du Vietnam pour les Américains, avec l'idée que plus il y a eu de morts américains au Vietnam, plus les Américains ont débattu de l'opportunité de cette guerre. Donc, mais c'est une lecture qui est un peu simpliste, parce que, par ailleurs, d'abord, les choses ont évolué au cours de ces dernières années. Il y a eu l'électrochoc de l'embuscade d'Usbin en août 2008 qui produit 10 morts, 10 soldats français meurent dans cette embuscade en Afghanistan dans la nuit du 18 au 19 août. C'est quelque chose qui produit beaucoup de polémiques dans l'espace public, donc qui est assez mal supporté par l'opinion publique. De fait, le soutien des Français aux opérations françaises en Afghanistan diminue. Il avait commencé à diminuer avant, mais il diminue nettement après 2008. Mais ça a aussi enclenché un cycle de réapprentissage d'un certain nombre des réalités de la guerre. Par exemple, on a vu réapparaître à partir de 2008 beaucoup plus d'images de soldats qui combattent dans les médias français. Ça nous paraît aujourd'hui, 10 ans plus tard, quelque chose d'habituel de voir des images de soldats français qui combattent au feu. En fait, c'était quelque chose qui s'était largement estompé de l'espace médiatique depuis quelques années, voire quelques décennies. Donc, en fait, on est dans un moment de transition et je pense que le politique ne perçoit pas toujours qu'on est dans un moment de transition où il est aussi possible d'expliquer davantage les choses aux Français. Mais encore une fois, comme c'est des choix de politique de défense, pour expliquer, on ne peut pas avoir qu'une seule voix. Et on revient à ce qui crée le prétexte de cette émission, hein, qui est l'article du colonel Le Grier et plus largement la question du débat stratégique. Il s'agit bien de choix de politique de défense et de choix de politique aussi dans le domaine des opérations. Et des choix de politique de défense, ils ne peuvent pas être compris s'ils ne sont pas débattus, parce qu'alors, sinon, il y a une suspicion vis-à-vis d'un seul émetteur de messages, qui est le politique, qui est évidemment suspecté de faire de la propagande.
Vous avez évoqué l'embuscade de la vallée d'Usbin en Afghanistan. Je vous propose justement de revenir 11 ans en arrière, le 21 août 2008.
En tant que chef des armées, je n'ai pas le droit de considérer la mort d'un soldat comme une fatalité. Je sais que pour les familles et les proches, les mots que je prononce peuvent paraître d'un faible secours. Ils ne vous rendront pas l'être aimé. La France pleure avec vous. Vos enfants, je sais que rien ne pourra réparer la perte de l'être aimé. Et moi, je vous dis qu'on peut être fier de ce qu'ils ont fait.
Je n'ai pas le droit de considérer la mort d'un soldat comme une fatalité. Le président Nicolas Sarkozy, c'était sur TF1, donc ce 21 août 2008, lors d'une cérémonie en hommage aux 10 soldats français tombés dans cette embuscade. Bénédicte Chiron, d'une certaine manière, est-ce que c'est pas aussi le rôle du politique de promettre que les soldats reviendront tous sains et saufs?
Eh oui, mais c'est le rôle du non, il peut pas promettre que des soldats reviendront tous sains et saufs d'une opération déclenchée. Et c'est là aussi qu'il y a vraiment, dans la parole politique, une question de subtilité du discours qui se pose. On comprend bien que le politique ne va pas annoncer des morts massives à l'avance. Il ne peut pas se le permettre. Mais il y a un devoir aussi d'honnêteté vis-à-vis à la fois des militaires qu'on envoie et des citoyens dans leur ensemble, qui est de rappeler que à partir du moment où on envoie des militaires en opération, il y a ce risque de la mort. Et de fait, sur cette affaire de l'embuscade d'Usbin, Nicolas Sarkozy a envoyé des renforts en Afghanistan à partir du début de l'année 2008, sans jamais avoir une parole extrêmement claire sur le sujet, y compris sur les modalités des opérations qui évoluaient sur le terrain et qui faisaient de fait que les militaires français allaient être davantage exposés qu'ils ne l'avaient été jusque-là en Afghanistan. Donc on voit bien que, en fait, le politique est dans l'évitement de cette question de la mort, mais en fait, ce faisant, s'expose à d'autres risque, ne serait-ce que pour parler que de communication, hein, s'expose à d'autres risques en termes de communication, qui est de ne pas avoir d'abord préparé l'opinion publique. Et puis d'autre part, on parlait de la question de cette distance de la guerre, de la mise à distance, ça pose des problèmes en termes de communication, parce que raconter une guerre par frappe aérienne et par bombardement, parce que c'est le mot que personne ne veut employer, mais c'est de ça qu'il s'agit, en termes de communication, c'est en fait beaucoup plus difficile à faire accepter par l'opinion publique. Donc on le raconte de manière très distante, de manière très neutre, il y a peu d'images des effets de cette guerre sur le terrain, parce que ce seraient des images qui seraient très désagréables à assumer. Mais on raconte aussi de fait une histoire où ceux qui mènent la guerre ne prennent aucun risque face à d'autres combattants qui, eux, subissent un type d'opération extrêmement violent qui peut avoir des dommages évidemment sur des populations civiles. Et là encore, en fait, ce dont le politique se prémunit en termes de communication, en fait, est parfois une logique à courte vue qui n'anticipe pas forcément que faire comprendre, raconter une guerre par frappe aérienne ou par bombardement ou par artillerie ou en étant seulement en appui est aussi quelque chose qui, dans la durée, est compliqué à raconter.
Alors revenons sur la guerre irako-syrienne. Michel Goya, l'une des particularités de cette guerre, alors effectivement ce sont beaucoup de bombardements aériens et puis le fait de s'appuyer sur des troupes alliées au sol qui sont en fait les Kurdes et puis les forces démocratiques syriennes, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ordre moral finalement ou éthique à sous-traiter le risque à ses alliés, des alliés dont on sait que diplomatiquement on n'est pas prêt non plus à les soutenir par la suite dans leurs revendications territoriales, par exemple?
Oui, alors il y a plusieurs aspects dans ce que vous dites. Des aspects politiques, des aspects plus techniques, des aspects éthiques aussi, d'une certaine façon. En refusant de faire prendre trop de risques à nos soldats, effectivement, on a moins de pertes de nos soldats. Vous avez 2 soldats français qui sont morts en Irak. D'une certaine façon, on transfère ce risque en réalité. On transfère ce risque de plusieurs façons. On le transfère d'abord complètement aux troupes alliées locales, hein, irakiens, aux forces démocratiques syriennes, bien sûr, qui elles qui prennent toute la charge du combat en première ligne, je dirais. Ce qui pose d'ailleurs un autre problème, c'est que tout dépend aussi de ces gens-là. Et si ces gens-là ont besoin de notre aide, c'est que globalement, ils ont des faiblesses. Et donc, le combat sera beaucoup plus difficile, certainement, beaucoup plus long, c'est ça, beaucoup plus long que si on était intervenu directement avec des troupes bien équipées, professionnelles, bien armées, etc.
Est-ce qu'on en est certain, ça? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque à refaire la bataille après coup et si vous voulez, c'est toujours aussi un peu compliqué de faire ce pari-là.
Écoutez, l'opération Serval au Mali, nous sommes engagés avec 4 bataillons en première ligne, avec tous les appuis et moyens aériens, etc., à côté de nos camarades, nos frères d'armes africains, maliens ou d'autres pays. La mission a été remplie, c'est-à-dire la destruction des bases djihadistes dans le nord du pays, la libération de la reconquête de Gao et de Tombouctou a été faite en quelques semaines. Concrètement, on peut estimer que si la coalition avait impliqué des bataillons au sol, mais c'était compliqué pour politiquement, on aurait peut-être pu détruire le territoire de l'État islamique en environ un an, je pense. Ce qui aurait des tas d'autres implications. Mais on transfère ce risque, donc, je disais, sur les forces locales qui prennent toute la charge, sur, en faisant durer ce conflit, en réalité, sur la population civile, malgré les immenses précautions que l'on prend à chaque fois, mais que vous envoyez pas 30 000 frappes comme ça sur le terrain sans que ça ait forcément des conséquences. La coalition admet avoir tué, être responsable de la mort de 1200 civils. En réalité, probablement plus, entre 6 000 et 9 000, très, très probablement. Alors par rapport au nombre de frappes, techniquement, on peut vous dire, mais attendez, il n'y a jamais eu aussi peu de pertes civiles, de dommages collatéraux par rapport au nombre de frappes, donc ça montre bien qu'on
part. Le problème, c'est que ça reste quand même plus de morts civiles que de morts de soldats, et c'est quand même très problématique.
Et puis, un autre aspect, c'est qu'on parle des civils locaux, mais il y a aussi les civils métropoles. C'est-à-dire que là, on est dans un conflit où l'ennemi nous frappe aussi. Donc, je pense très certainement que lorsque la France s'est engagée dans ce conflit contre l'État islamique, on est allé un peu légèrement et n'a pas imaginé très sérieusement que cet ennemi allait pouvoir lancer des attaques, des attentats en France. Actuellement, la guerre de la France contre l'État islamique, c'est la seule de notre histoire où vous avez à peu près 100 fois plus de pertes civiles françaises par les attentats que de soldats tués au combat. Ce qui est une inversion complète, je dirais, de la normalité des choses. Les soldats ont été inventés pour prendre des risques à la place des civils qui sont censés protéger. Et là, on est dans une situation qui est totalement inédite historiquement.
Est-ce que cette situation inédite n'est pas aussi due à une certaine asymétrie de la guerre, à savoir que sur place, les combattants de l'État islamique sont aussi sur un mode insurrectionnel, avec des attaques suicides, je ne sais pas si on peut parler de guérilla, mais oui. Est-ce que ça explique aussi que la victoire soit compliquée, soit difficile? Et je repose un peu cette question, est-ce qu'on est certain qu'en envoyant des troupes au sol face à des attaques suicides, on y serait parvenu plus rapidement, plus efficacement et avec des pertes relativement limitées?
Écoutez, je vous renvoie encore une fois l'exemple malien. En face de nous, il y avait 3000 combattants qui sont du même type que l'État islamique, hein, des combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ou du Mujaho ou d'Ansaridine, qui étaient des combattants extrêmement durs, qui pratiquaient le combat suicide aussi. Et ils ont été éradiqués en quelques semaines. Il y a 7 soldats français qui sont morts dans cette période. Ce qui n'a pas mis fin à la guerre pour autant, hein. Cette phase de la guerre a été incontestablement un succès.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Nos armées ont-elles peur de faire la guerre? C'est la discussion que nous avons ce matin dans Culture Monde avec nos invités Michel Goya, ancien colonel spécialiste de l'histoire militaire et de l'analyse des conflits, et Bénédicte Chéron, historienne, chercheure à la Sorbonne, enseignante à l'Institut catholique de Paris. Bénédicte Chéron, dans un article que vous avez publié récemment, vous expliquez que les présidents français, et peut-être que ça vaut pour d'autres démocraties, devraient rappeler que la mort des soldats n'est pas un objectif, mais une éventualité, et que cette éventualité doit être acceptée non seulement par le soldat, mais aussi par la hiérarchie, par le politique et finalement toute la société. Mais est-ce que nos démocraties sont prêtes à cela? Est-ce qu'elles sont prêtes à cette acceptation-là aujourd'hui?
Elles peuvent l'être si effectivement le politique qui agit en leur nom prend le soin d'expliquer d'abord, de laisser débattre. Et je crois que, par exemple, ce qu'on est en train de faire là est utile, parce qu'effectivement, le fait qu'on explique les enjeux stratégiques de tel ou tel type d'opération permet aux citoyens d'être éclairés. Mais encore une fois, elle nécessite que le politique assume une chose, qui est que les militaires ne s'engagent pas pour mourir, mais s'engagent pour combattre un ennemi que le politique désigne. Et en fait, c'est un peu ce qui manque souvent à la compréhension collective qu'on a du fait militaire, c'est qu'on a tendance dans nos sociétés occidentales, et particulièrement en France avec une histoire particulière, à n'envisager le soldat, à ne connaître le destin des soldats que quand ils meurent, parce qu'en fait, le seul moment où on nous raconte l'histoire des soldats, c'est quand ils meurent. Avant qu'ils ne meurent, on a un traitement qui est très distancié, alors pour des impératifs de communication d'une part, à cause de la nature des opérations d'autre part. C'est des choses qui ont évolué, hein. On a parlé de l'opération Serval, qui d'ailleurs serait le contre-exemple, hein, qui montrerait qu'on n'a pas si peur que ça de faire la guerre, parce que pour le coup, on l'a faite. Et le politique a tenu un discours épique, même parfois avec des excès notables sur la manière dont ils allaient détruire un ennemi, exterminer cet ennemi. Et là, il y a eu une fenêtre, un moment où effectivement, on a davantage raconté ce qu'étaient les opérations, ce que vivaient les soldats au sol, précisément, dans la Drar des Iforas, etc., au Mali. Donc il y a eu quelque chose. Mais il est vrai que ça nécessite à la fois, en fait, des endroits où on raconte ce que vivent ceux qui mènent la guerre. Et ça, ces endroits-là se sont plutôt multipliés depuis une dizaine d'années, depuis l'engagement en Afghanistan. C'est-à-dire que effectivement, on raconte de plus en plus, il y a de plus en plus de documentaires. Les films de fiction, ça reste timide, mais on voit des balbutiements. Il y a de plus en plus de lieux où on raconte dans l'espace médiatique ce que vivent les soldats français. Même si, encore une fois, dès qu'on est dans les opérations de guerre à distance, hein, de frappe, ça reste beaucoup plus compliqué à raconter. En revanche, ce qui ne s'est pas multiplié depuis une dizaine d'années, c'est les espaces de débat, les espaces médiatiques de débat où on peut avoir des lieux d'explication de ces choix qui sont posés et pas seulement un discours politique qui est forcément guidé par des impératifs de communication sur les opérations elles-mêmes, mais aussi guidé par des calendriers politiques, par des agendas électoraux et qui viennent forcément fausser aussi cette parole politique sur les opérations. Et là, il y a vraiment quelque chose auquel il faudrait qu'on réfléchisse collectivement, c'est que s'il n'y a pas de lieu où on peut débattre des choix de politique de défense, alors de fait, ça reste quelque chose de très distant pour les citoyens.
Est-ce que ça veut dire que parfois, les objectifs d'une opération extérieure ne sont pas assez clairs, ou en tout cas pas assez clairement expliqués à l'opinion publique, ou même au sein du Parlement, Michel Goya?
Oui, c'est souvent le... C'est effectivement.
On ne sait pas pourquoi on va faire la guerre.
C'est souvent assez flou. Alors on me dira que le flou, c'est souvent un peu la liberté d'action du politique. Ce que les militaires demandent souvent aux politiques, c'est de dire « donnez-nous un objectif clair ». Et ce n'est pas forcément toujours le cas, effectivement. Alors, on reprend l'exemple du Mali. Le Mali, oui, l'objectif était clair, détruire les bases djihadistes. D'abord, il y avait, on assumait l'état de guerre. Le mot était prononcé d'emblée par le président de la République, avec une mission relativement claire. Bon, après, par la suite, cette guerre a évolué d'une autre façon. Mais je reprends l'exemple aussi de la guerre du Golfe en 1990. Là, il y avait un discours, il y avait une volonté de presque un discours un peu churchillien, disant voilà, écoutez, voilà, nous faisons la guerre parce que le droit international a été bafoué de manière évidente. Il y aura du sang et des larmes. Ça a été, je me rappelle très bien, les soldats qui partaient, enfin, avaient reçu des centaines de body bags, on appelle ça, pour mettre les morts. Et c'était accepté par l'opinion publique. L'opinion publique, globalement, ce qu'elle déteste, ce sont les morts pour rien. En réalité, et souvent, on s'aperçoit que si la cause paraît légitime, paraît juste, le fait qu'on prenne des risques et qu'il y aura forcément très probablement des pertes de soldats est accepté par la société. Elle est parfois même plus allante. Dans les années 90, au moment de la crise en ex-Yougoslavie, l'opinion publique était beaucoup plus favorable à une intervention militaire que les politiques, globalement, surtout sur la fin. Donc il faut se... Et puis les choses peuvent changer aussi très vite. Là, pour la guerre en Irak, là aussi, la guerre de la France contre l'État islamique. Bon, voilà, on décide de faire la guerre à l'État islamique. L'État islamique, ça existe depuis longtemps. Hein. Là, d'un seul coup, on décide de faire la guerre. Seul élément dont je me souvienne, c'est il faut détruire les égorgeurs de Daesh. Donc c'était l'expression de Laurent Fabius. Bon, après, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi, d'ailleurs, détruire un ennemi, surtout un ennemi de ce type, mettre fin à son territoire? Les choses ne sont pas d'ailleurs clarifiées. Hein. L'État islamique, c'est une organisation qui a toujours surtout vécu en clandestinité, qui y retourne. Donc ça, c'est une phase normale qui est en train de se passer. Et on attend toujours que le politique nous dise « Bon voilà, mais qu'est-ce qu'on fait quoi ? Une fois que le califat, le territoire sera conquis, quelle est la position de la France dans cette guerre ?»
Quel est le projet politique
Voilà. Et d'un point de vue opérationnel militaire, les choses ont été très simples. On a décidé de faire comme les Américains. Donc ça mérite de la simplicité, c'est pas se poser de questions. Donc le problème, c'est que donc on adopte complètement cette approche indirecte que les Américains, pour des raisons multiples, ont choisi de faire. Il n'y a sans doute pas trop le choix pour eux. je pense qu'il y avait certainement le choix pour nous de faire autrement, mais ça nous condamne aussi quand on emploie préférentiellement, par exemple, des moyens aériens, ça nous oblige aussi à n'être qu'un acteur, qu'un petit acteur dans la coalition, hein, la France.
Mais c'est le propre des coalitions. Est-ce que le fait d'être dans une coalition, justement, est un facteur explicatif important d'un manque de clarté des objectifs militaires? Évidemment, un manque d'autonomie, hein, c'est ce que réclament les militaires français, plus d'autonomie. Mais les coalitions, c'est peut-être aussi l'avenir des opérations extérieures à venir et des guerres à venir. C'est assez rare, non, finalement, des opérations extérieures menées par un seul pays?
Oui, c'est assez rare. C'est-à-dire, même au Mali, on était en coalition avec des pays africains et appuyés, aidés par un certain nombre d'alliés européens et même américains. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est une coalition américaine où le 80% du travail est fait par les Américains. Les Américains n'ont pas besoin d'alliés, en réalité, pour combattre, pour fournir des moyens supplémentaires. Ils ont besoin d'alliés pour mettre un peu plus de légitimité à leur action. Mais à l'intérieur d'une coalition, ça n'empêche pas d'avoir une politique autonome. Si le pays d'accueil, c'est là qui est certainement l'élément le plus important, est d'accord. Donc on aurait pu faire la France, particularité de la France, c'est que le président de la République peut engager la force très facilement, institutionnellement, beaucoup plus qu'aux États-Unis, et il peut l'engager de toutes les manières qu'il veut. Il n'y a aucune contrainte à la matière. C'est ce que nous faisons au Sahel. Donc là, on engage tous nos moyens et on définit comme l'on veut notre façon de faire. Mais en Irak, non, on a fait comme les Américains, strictement, du début jusqu'à la fin. On est même suivi. Quand le président de la République, en novembre 2015, juste après les attentats, le président de la République fait une déclaration disant: je m'engage solennellement à mettre en œuvre tous les moyens pour détruire l'armée des fanatiques qui a commis cela. Je cite textuellement. Bon, mais tous les moyens, c'était en réalité 4 canons de plus qui ont été envoyés. Donc on est très loin quand même de la mobilisation générale, et très loin d'une implication forte. Et si d'ailleurs, si ces 4 canons étaient si importants, pourquoi ne les a-t-on pas envoyés plus tôt? Pourquoi on n'a pas envoyé 8, etc. Donc on est dans un engagement à minima. L'important, c'était pas de vaincre Daesh, c'était d'être présent dans la coalition. D'être présent, on essaie d'une opération bien plus diplomatique qu'une opération véritablement militaire.
C'est là qu'on en vient, Bénédicte Chéron, à l'enjeu du récit qui est fait de la guerre, du récit qui est fait auprès de l'opinion publique.
Oui, effectivement, parce que on voit bien que Michel Goya vient de rappeler quels ont été les colossaux moyens engagés après les attaques terroristes de 2015 sur le sol français. Le décalage a été absolu entre la réalité des moyens engagés dans la zone irako-syrienne, parce qu'on parle pas là de la bande sahélo-saharienne, mais dans la zone irako-syrienne, et le récit qui en a été fait, où on a eu un discours, du discours très épique qui était tenu par François Hollande en chef de guerre au début de l'opération Serval au Mali, a été réutilisé de manière très amplifié après les attaques terroristes de 2015 pour la zone irako-syrienne, et avec un effet de communication très fort où on a expliqué qu'on faisait la guerre par tous les moyens, qu'on renvoyait le Charles de Gaulle dans la zone alors que de toute façon le départ était déjà prévu, donc c'était une rencontre temporelle, mais il n'y avait pas de renfort vraiment supplémentaire, qu'on allait envoyer des renforts au sol en assistance, en soutien, etc. Et donc, on a ce décalage qui ne permet pas non plus de comprendre la réalité des opérations menées. Et là encore, en fait, il y a toujours un... Parce qu'on a peu d'espace de débat sur ces questions-là, la parole politique a tendance à occuper tout le champ, et parce que de fait la parole militaire des militaires en exercice est forcément beaucoup plus réduite dans le contexte opérationnel, la parole politique occupe tout le champ et devient, on peut le dire parce que c'est pas un gros mot, hein, c'est des effets de communication qui sont aussi des effets de propagande et qui ont tendance à masquer toutes les subtilités du débat et qui ne peut pas être tenu. Alors, heureusement, il y a aussi dans l'espace médiatique d'autres paroles de spécialistes. Michel Goya est un ancien militaire, donc il sait de quoi il parle. Quelques autres sont invités, peuvent porter une parole d'expert sur ces sujets. Mais il est vrai qu'il manque toujours au débat cette parole des militaires en exercice qui sont au contact des réalités opérationnelles d'aujourd'hui. Alors, évidemment, un chef militaire qui se trouve dans la zone irako-syrienne ne peut pas, pendant son mandat, pendant sa période de commandement dans la zone, zone prendre la parole dans les médias pour porter un débat sur l'opération qu'il est en train de mener, mais il faudrait qu'il y ait d'autres lieux où ce soit possible, et il est vrai que si les revues militaires ne permettent pas de porter ce débat, alors ça pose un problème, parce que il manque une pierre à l'édifice et à la compréhension par les opinions publiques de ces opérations.
Michel Goyage mobilise donc l'expert que vous êtes et l'ancien militaire que vous êtes. Je reviens sur la guerre, l'intervention française au Nord-Mali. Vous dites que c'était une intervention qui était plutôt bien menée au sens où elle était claire et l'objectif était clair au niveau politique. Mais quelques années après, aujourd'hui, c'est quand même difficile de parler de l'élimination du risque terroriste dans la zone sahélienne. Il y a peut-être on peut avoir l'impression que finalement, quels que soient les moyens utilisés, ces guerres deviennent quasiment impossibles à gagner parce que l'ennemi se recompose, s'adapte. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir notre définition d'une victoire, en fait, tout simplement, dans ce type de guerre contre des insurrections terroristes ?
Oui. D'abord, ce ne sont pas les armées qui font les guerres, ce sont les nations. Les armées ne sont qu'un instrument des nations, ne sont un instrument de puissance, souvent le principal, mais pas le seul, pour imposer sa volonté à un ennemi. Là, dans ce cadre-là, les militaires font le travail, je dirais, ils remplissent leur mission, mais ils sont un peu seuls. C'est-à-dire que même pour prendre le cas de la guerre contre toutes les organisations djihadistes, il y a un volet militaire, mais il y a un volet sécurité, il y a un volet, et on voit bien qu'il y a eu quelques défaillances en la matière. Quand on intervient également dans des pays étrangers souverains, ce qui a causé la guerre elle-même, les causes profondes nous échappent aussi profondément. Hein. C'est-à-dire que comment lutter contre la corruption, comment lutter tout un tas de phénomènes locaux qui nous échappent. Donc c'est qui rendent les choses beaucoup plus complexes.
Nous sommes en votre compagnie, Michel Goya et Bénédicte Chéron. Restez avec nous tout de suite, direction l'Afghanistan.
Avec un avion piloté à distance, nous sommes aux États-Unis et nous pilotons un avion qui se trouve à l'autre bout du monde. Donc nous rentrons à la maison à la fin de chaque journée. C'est différent. Mais le potentiel est énorme. C'est un soutien important pour les hommes sur le terrain. Et ils le demandent car ils savent qu'on fait un bon boulot et que nous sommes contents de le faire.
Extrait sonore d'une attaque de drone lancée par l'armée américaine en Afghanistan, c'était en 2011. L'usage de drones, mais aussi le sous-traitement de certaines opérations de sécurité ont été particulièrement importants en Afghanistan. Certains y ont vu une forme de laboratoire de la guerre mise à distance. Pour quelle efficacité et avec quelles conséquences, nous avons interrogé à ce sujet Adam Bashko, chercheur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'Afghanistan. Il est au micro de Samuel Bernard.
Il faut bien imaginer que les soldats américains vivaient dans des bases complètement isolées de la population et à cet égard-là étaient très dépendants des gens qui acceptaient de travailler pour eux, traducteurs, alliés locaux qui comprenaient très vite l'intérêt qu'il y avait à se placer dans l'intermédiaire entre les soldats américains et la population et potentiellement de manipuler les soldats américains à leur avantage. Les soldats américains se sont trouvés beaucoup comme ça à jouer dans les vendettas locales.
Alors c'est vrai que pour comprendre cet isolement qui était celui de l'armée américaine, il faut également se souvenir de ces bases militaires, comme vous dites, hein, qui sont construites au milieu des années 2000, qui sont souvent gigantesques, qui sont des véritables villes dans la ville. Hein, je pense à Kandahar, à Bagram, à Connelly. Vous avez pu voir ces complexes militaires. Décrivez-nous-les un peu. Est-ce qu'ils nous permettent de comprendre cette déconnexion entre les soldats américains et le reste du pays en Afghanistan ?
Alors il faut imaginer effectivement des bases qui sont extrêmement étendues, hein, construites avec des lignes de fortifications successives, tournant sur des dizaines de kilomètres, avec une très très grande surface entre chacune des lignes de fortifications qui visent, avec des murs qui sont construits avec des sacs contenant des gravats, à éviter qu'une attaque suicide ne touche les soldats américains. Et donc toute l'idée pour protéger les soldats américains était d'éloigner autant que possible les lignes de fortifications successives. Et donc il faut imaginer des endroits où il faut des heures pour passer les contrôles, rentrer à des endroits qui donc très clairement mettent les soldats américains dans une coupure très forte vis-à-vis de la population et qui sont des lieux qui sont très difficiles d'accès pour les Afghans, hein, qui sont vraiment des îlots dans lesquels les soldats américains vivaient en quasi-autarcie.
Et donc en fait, on s'est largement, enfin en tout cas l'armée américaine s'est largement éloignée de la doctrine qui était celle de Barack Obama, c'est la doctrine de la contre-insurrection et qui a pour vocation de se rapprocher du terrain, de se mélanger à la population.
Alors, ça vaut le coup d'avoir un peu de perspective historique. En fait, les militaires américains, quelque part, ne voulaient pas trop s'engager dans la guerre en Afghanistan au début des années 2000. Au contraire, l'idée était de laisser aux autres pays, en l'occurrence aux pays européens, tout ce qui était vu comme de la stabilisation. Les soldats américains devaient, selon la promesse du président Bush, ne s'occuper que d'Al-Qaïda. Et donc, au contraire, au début, il y a eu une envie de ne pas s'impliquer dans les questions politiques, ce qui, évidemment, n'était qu'un discours partiellement applicable, puisque le simple fait d'obtenir du renseignement pour mener des opérations antiterroristes signifiait s'impliquer dans la politique locale. Et c'est seulement dans la fin des années 2000 qu'arrivait un groupe d'officiers qui ont proposé de gagner les cœurs et les esprits, pour reprendre les expressions issues de la lutte anticoloniale des années 50-60. Et là, l'idée était soi-disant d'interagir le plus possible avec la population. En fait, en l'occurrence, les interactions étaient extrêmement rares. Ce que signifiait en pratique la contre-insurrection, de la manière dont la pratiquaient les soldats américains, c'était surtout des distributions d'argent extrêmement importantes, des sommes d'argent massives qui ont été déversées dans le but d'acheter quelque part une paix, et des soldats qui restaient, eux, de leur côté, fondamentalement très isolés derrière des véhicules blindés, derrière des bases dont ils sortaient peu, derrière un équipement aussi qui, dans l'interaction avec les gens, créait une distance assez remarquable.
Alors, c'est vrai que c'est cette question de la protection des soldats, c'est une préoccupation assez essentielle pour le Pentagone. Et donc, évidemment, la question du nombre, le nombre de morts dans le camp des soldats américains était très importante. Et expliquez-nous justement quelles sont ces méthodes pour éviter d'exposer les soldats américains. Alors, je pense notamment aussi aux sociétés de sécurité privées. Donc, quelles sont ces méthodes et quelles sont aussi leurs conséquences?
Il y a eu, grosso modo, deux manières de faire, au-delà de problèmes tactiques et stratégiques. Il y a eu deux grandes méthodes qui étaient de sous-traiter quelque part la guerre à d'autres personnes. D'un côté, vous aviez les drones et les forces spéciales qui faisaient des opérations de nuit ou que faisaient des frappes aériennes sur des cibles en fonction d'un renseignement qui était collecté soit par d'autres intermédiaires, soit par des moyens d'électronique. Et de l'autre, c'était le fait de sous-traiter une partie de la sécurité, voire une partie des opérations militaires, soit à des compagnies de sécurité privées, soit à des milices. Et donc ça a beaucoup dépendu des configurations locales. Les militaires américains ont fait les deux choix. Soit de sous-traiter la sécurité de leur base, la première ligne de fortification était souvent tenue par une entreprise de sécurité privée, soit, comme on l'a vu par exemple à Khost, dans le sud-est du pays, de tout simplement former une milice de plusieurs milliers de personnes qui, à la fois, assurait la sécurité de la base, menait les opérations avec les soldats américains, voire menait les opérations que les soldats américains ne pouvaient pas, au vu des risques, au vu des problèmes éthiques qu'auraient posé de faire ces opérations, mener eux-mêmes. Et donc, ils laissaient cette milice-là mener ces opérations-là.
Alors, et c'est vrai qu'il y a, par ailleurs, pour protéger les soldats américains, cette question de l'équipement, des protections, puisqu'eux étaient obligés de porter à peu près 40-50 kilos d'affaires à travers les montagnes pour protéger leur propre vie. Ça, c'est quelque chose qui était évidemment problématique au niveau stratégique.
Oui, et les militaires et les officiers américains en étaient très conscients. Moi, je me souviens d'une conversation avec des militaires américains où ils disaient qu'ils avaient un problème, c'est que leur vitesse de progression était très réduite. Les militaires américains pouvaient progresser à 1 km/h dans des zones avec un relief accidenté. Là où ils avaient en face d'eux des insurgés très légèrement vêtus, avec une simple kalachnikov et un vêtement de coton, qui, eux, pouvaient marcher beaucoup plus vite, être beaucoup plus mobile, sachant qu'il y avait une dépendance non seulement à la quantité d'équipement porté, mais aussi aux véhicules qui laissaient quelque part une grande partie du territoire aux insurgés, et une grande partie des attaques qui ont été les plus meurtrières sur l'armée américaine, mais de la même manière sur les troupes européennes, étaient des embuscades où l'un des avantages des talibans était effectivement la mobilité, ce dont les officiers occidentaux étaient tout à fait conscients.
Alors, une dernière question, Adam Bachko, l'usage aérien des bombes, c'est aujourd'hui justement cette guerre à distance, est devenu presque une signature aussi pour Donald Trump, qui a fait en particulier en 2018 un usage massif de la puissance aérienne. Et ce qu'on comprend en lisant certains de vos articles, Adam Bachko, c'est que ces bombes ne suffisent évidemment pas à contenir la progression des groupes talibans. Pourquoi ? Parce que justement, ils s'adaptent.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Trump ne fait que reprendre un changement stratégique opéré par Obama. Il y a une très grande continuité entre Trump et Obama à cet égard-là, hein, qui était l'idée qu'en retirant les troupes américaines, on éviterait les pertes et on pourrait les remplacer par la force aérienne. Les talibans ont très vite su s'adapter, fonctionner par des groupes plus petits, éviter dans le cadre, comprendre comment fonctionnaient les modes de collecte, et donc éviter d'utiliser des téléphones de la manière dont ils les utilisaient avant. Enfin, ils se sont adaptés par des petites méthodes tactiques pour pouvoir justement éviter les frappes autant que possible, hein, et on a bien vu dans les prises des villes de Kunduz, de Razni et dans les attaques sur les bases de l'Allemande ces dernières années à quel point l'aviation ne suffisait pas à contenir les talibans, hein. Le problème dans lesquels sont pris les troupes américaines, c'est qu'ils ont en face d'eux une insurrection qui se professionnalise et qui, au fur et à mesure, devient de plus en plus apte à battre l'armée nationale afghane dans des affrontements conventionnels.
Voilà, c'était Adam Bashko au micro de Samuel Bernard. Retour en plateau avec nos invités. Michel Goya, une réaction à ce qu'on vient d'entendre sur l'Afghanistan comme laboratoire de la guerre mise à distance?
Alors, bon, pas véritablement, mais c'est...
Vous nuancez l'idée?
Oui, non, c'est pas véritablement un laboratoire, mais ça a commencé bien avant, mais c'est effectivement là que, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même là où on l'a mis le plus en avant. Juste un élément qui est dit par, qui est raconté par Adam Bashko, c'est que effectivement, à force de protéger aussi, de vouloir protéger les soldats, on les rend paradoxalement parfois plus vulnérables, en plaçant nos soldats dans des bases fortifiées, en les blindant en permanence, des véhicules blindés de plus en plus lourds, de plus en plus blindés, eux-mêmes de plus en plus lourds, de plus en plus blindés, à première vue on les protège, en réalité on les rend dépendants d'axes. Par exemple, les routes, donc ils peuvent plus sortir des routes, donc les routes, ben on sait où ils sont, et finalement vous avez des pertes d'autres manières, par des engins explosifs, par des mines, etc., parce que on devient lent, lourd, prévisible. Les soldats, moi j'avais établi une statistique montrant que dans la guerre du Vietnam, mais c'est le cas aussi en Afghanistan, où vous avez des soldats des forces spéciales, notamment américaines en Afghanistan, qui vivaient dans des villages, donc apparemment extrêmement vulnérables au vu de tous, et qui avaient globalement moins de pertes que ceux qui étaient dans les bases, parce qu'ils étaient protégés autrement par la connaissance du terrain, par la population, par la protection de la population elle-même, qui donnait des renseignements, etc. etc. Et mais moi, j'avais posé cette question à un chef d'état-major il y a quelques années, qui m'avait répondu, mais comment veux-tu que j'explique à un père de famille que son fils a été tué alors que il n'était pas, je lui ai pas donné tous les moyens de protection disponibles. Voilà, donc c'est une vision aussi qui est un peu
En quelques secondes, est-ce que vous estimez l'un et l'autre qu'il y a un bilan à tirer de la manière dont on a fait la guerre en Afghanistan qui n'a pas été fait, en tout cas pas publiquement, pas dans un débat public, Bénédicte Chéron?
Alors, je pense quand même qu'il y a eu beaucoup de débats sur la guerre. En tout cas pour la France, il y a eu un débat sur la guerre en Afghanistan parce que le nombre de morts a provoqué le débat aussi. Et en fait, le débat est venu de là. Ça a été un moment douloureux, mais un moment de réapprentissage. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça a aussi un peu rouvert. Alors, on voit bien avec l'affaire de la tribune du colonel Le Grillé que ça reste des démarches fragiles, mais on est encore une fois dans un moment particulier parce que le colonel était lui-même encore en opération. Mais ça a aussi ouvert des espaces de débat dans les milieux militaires, dans des endroits où ça s'y prête particulièrement. Par exemple, je terminerai là-dessus, l'école de guerre qui forme tous les futurs colonels et généraux des armées a créé une maison d'édition où il y a un ouvrage qui est paru sur le sentiment d'inachevé. Il me semble que c'est le titre de ce livre, un sentiment d'inachevé que ressentent les militaires quand ils sont engagés en opération extérieure, parce que l'issue du conflit armé n'a pas été anticipée suffisamment par le politique. Donc ces espaces-là, ils existent, et c'est vrai que pour le coup, l'Afghanistan a joué un rôle, en tout cas pour les Français, dans ce domaine.
On cherchera la référence exacte de cet ouvrage et on la mettra sur notre site. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Michel Goya, je rappelle, ancien colonel, spécialiste de l'histoire militaire, de l'analyse des conflits. Votre blog, La Voix de l'Épée, à lire, on peut vous lire régulièrement. Merci à vous, Bénédicte Chiron. Je rappelle votre ouvrage, Le soldat méconnu, les Français et leurs armées, état des lieux. presque 54, c'est l'heure du Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Mélanie.
Alors ce matin, les élections au Parlement européen, votre chronique porte sur les élections au Parlement européen qui se rapprochent. Le moment est venu de faire le bilan des sortants, car nous n'allons pas élire seulement des eurodéputés, l'Union européenne va également changer de commission.
Et oui, à Bruxelles, la commission Juncker prépare ses valises. Les commissaires européens s'apprêtent à transmettre leur dossier à leurs successeurs. Les échéances, en effet, se rapprochent. Le 9 mai aura lieu à Sibiu, en Roumanie, le dernier Conseil européen avant l'élection du nouveau Parlement. Il est attendu qu'il précise les grands défis que devra affronter l'Union européenne au cours des années à venir, histoire de s'assurer que les électeurs sachent bien de quoi il est question lorsqu'ils glisseront leur bulletin dans les urnes. Ces élections elles-mêmes, elles auront lieu entre le 23 et le 26 mai, et dès le mois suivant, en juin donc, les chefs d'État et de gouvernement se retrouveront pour un Conseil européen destiné à en analyser les résultats. Autrefois, c'était dans cette enceinte très fermée qu'on choisissait le président de la Commission. Depuis 2014, le Parlement européen s'est attribué cette responsabilité et les eurodéputés sortants ont fait savoir qu'il était hors de question de revenir sur la procédure retenue il y a 5 ans, celle qu'on appelle des Spitzenkandidaten. En vertu de cette pratique inspirée d'Allemagne, chaque groupe parlementaire présentera un candidat en tête de liste pour le poste de président de la Commission. Et théoriquement, c'est donc le candidat présenté par le parti arrivé en tête aux élections européennes qui deviendra le président de la nouvelle Commission. Dans certains pays européens, cette politisation de fait a été critiquée. On y redoute une Commission trop partisane, alors qu'en tant que gardienne des traités, elle devrait être au service de l'intérêt général européen. Les commissaires, eux, sont désignés, comme on sait, par les gouvernements des États membres, ce qui garantit leur pluralisme. Mais c'est le président qui leur attribue leur département ministériel. Durant l'été, le Parlement européen procédera à l'audition des candidats au poste de commissaires européens et il accordera ou non son investiture à cette nouvelle commission. Alors sur le rôle de la Commission européenne s'affrontent deux conceptions. Ceux qui veulent aller vers une Europe fédérale, ils considèrent la Commission comme une sorte d'exécutif de l'Union européenne nommé et contrôlé par le Parlement européen. Mais ceux qui s'en tiennent à une vision intergouvernementale d'une Europe des nations, ils se contentent d'une Europe des nations qui se contente de coopérer entre elles, et bien cela, ils voudraient que la Commission se contente de mettre en musique les grandes décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen. Et bien, dans son dernier livre, qui est d'ailleurs très remarquable, qui s'appelle « Quand l'Europe improvise », Luc van den Millelaar critique cette présentation qui est devenue un lieu commun. Pour ce philosophe, qui a été la plume de Herman Van Rompuy, quand celui-ci était président du Conseil européen, il y aurait en réalité non pas deux points de vue différents sur ce que nous sommes en train de faire au niveau européen, mais bien trois. Parce qu'à côté de l'option fédéraliste, celle qui met en avant le Parlement européen, et de l'option confédérale, dont l'organe de prédilection c'est le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, il faudrait faire place à une vision qu'il appelle fonctionnaliste, celle qui veut s'en tenir à une Europe dépolitisée, régie par des normes juridiques et, on dirait, comme en pilotage automatique.
Et le temps est donc venu de faire le bilan de la commission sortante et de tenter de prévoir le contenu des dossiers qu'elle trouvera en prenant ses fonctions.
Oui, c'est à quoi se sont employés ces derniers jours certains think tanks spécialisés. Et je vous proposerai cette semaine d'en consulter ensemble certains de ces bilans et perspectives. Deux en particulier ont retenu mon attention. Celui simple, clair et synthétique publié en français par l'IFRI. Celui plus détaillé et technique publié en anglais et à Bruxelles par le Center for European Policy Studies. Cela nous permettra de voir s'ils convergent ou pas, sujet par sujet. Pour commencer, ces deux rapports s'ouvrent sur le même constat désabusé d'un décentrement de l'Europe dans un monde devenu beaucoup plus instable et dangereux qu'il y a 20 ans. Un monde qui tend vers un système multipolaire et dont le centre de gravité commençait à basculer vers l'Asie du Sud-Est, lit-on dans le texte du CEPS. Du côté de l'IFRI, on estime très grand le risque de voir l'Union européenne, aujourd'hui encore acteur de premier plan du fait de sa puissance commerciale, perdre toute pertinence face aux grands que sont dorénavant la Chine et les États-Unis. Car des logiques de puissance qui ne font plus partie de la culture européenne sont à l'œuvre. L'avertissement récemment lancé par Sigmar Gabriel, le ministre fédéral SPD des Affaires étrangères allemand, reflète cette inquiétude, je le cite. « Dans un monde de carnivores géopolitiques, les Européens sont les derniers végétariens. Sans le Royaume-Uni, nous allons devenir carrément véganes. Et ensuite quoi ? Une proie ?»
Eh bien, merci beaucoup Brice. Votre chronique à retrouver et à réécouter sur franceculture.fr. Demain, c'est Florian Delorme que vous retrouverez au micro de Culture Monde.